Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir. Les Poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, nous accueillons dans ce studio de la rue d'Assali de Radio Occitanie, nous accueillons Jean-Luc Doucet. Jean-Luc, bonsoir.
Bonsoir.
Tu deviens familier maintenant, Jean-Luc, de cette émission.
C'est la troisième fois que je participe.
Voilà, donc trois biographies dont nous allons, dont nous avons parlé, et ce soir, une biographie particulièrement originale de la sortie d'un livre, Ferdinand le débile, aux éditions Jeanne d'Arc. Mais si tu le permets, Jean-Luc, avant de parler de Ferdinand le débile, je voudrais faire deux petites annonces. La première concerne la parution d'un livre de Marcel Migosi. Alors Marcel Migosi est également un des grands familiers de notre émission depuis des années, puisque il est né à Toulon, rue de la Fraternité, dans une famille ouvrière d'origine corse. Nous avons eu le plaisir de faire beaucoup d'émissions sur Marcel Migosi. Et il restera fidèle, Marcel Migosi, à cette origine corse et à sa région. Il a été instituteur, il est surtout poète, et il a fondé son écriture sur le regard rapproché du silence, sur l'exigence sereine d'un mieux à vivre ou d'un mieux à mourir. Et dans ses derniers recueils, c'est peut-être surtout sur le mieux à mourir qu'il insiste. Mais ceci dans la fertilité de mots, ce sont des mots à la Marcel Migosi, c'est-à-dire des mots rabotés, sarclés, absolument dépaysagés et sensibles à l'humus comme à l'humain. Son œuvre a été célébrée par le prix Jean Malrieux, par le prix Antonin Artaud et Descharmettes, et ainsi que le prix Jean-Jacques Rousseau. Alors, il publie « Des jours en s'en allant », encore un titre plutôt nostalgique de Marcel Migosi depuis quelques années. Il verse un peu dans ce ton où il dit ceci, « Je le devinais, c'est la blessure précède le bonheur, le suit, sans ténèbres les échecs et les regrets, lichens humains, Saint blé, la main renonce, automne, déjà soir. Mais, sous les feuilles d'un figuier à filles, se détache le souvenir d'une poitrine perlée sous la laine. Voilà, nous aurons l'occasion de reparler de ce livre de Marcel Migosi, Des jours en s'en allant, paru aux éditions Petra. Il vous coûtera la somme de 12 euros. Donc, nous reparlerons de ce recueil et j'espère que nous aurons Marcel Migosi avec nous pour en parler. Voilà, vous trouverez toutes les références de ce livre sur notre site les-poètes.fr. Et enfin, une deuxième publication dont nous avons brièvement parlé la semaine dernière. Il s'agit de Jean-Michel Mollepoix, qui publie aux éditions Le Passeur, Le Voyageur à son retour, dans la collection Littérature. Alors Jean-Michel Mollepoix, cet agrégé de lettres modernes qui enseigne la poésie moderne et contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Il est directeur de la revue Le Nouveau Recueil et il est l'auteur de nombreux ouvrages de poésie, mais également il est critique littéraire. Il a également publié des essais parmi lesquels Une histoire de bleu, L'instinct de ciel, Chute de pluie fine et Pas sur la neige en 2004. Voilà, Jean-Michel Mollepoix, dans ce dernier livre, saisit les émotions fugitives qui naissent à tous les sens. Chez lui, ce sont les voyages conduisent à l'éveil d'une sensibilité poétique tissée entre l'intime et le tangible. Après quelques années de silence, Jean-Michel Mollepoix, les mots du poète résonnent à nouveau dans ce livre qui célèbre la joie infime des plaisirs partagés et les surprises liées au décentrement du voyage. Enfin, ce livre on va trouver un carnet. Et ça, c'est une des originalités de cet éditeur, le Passeur, qui met à la fin du livre un chapelet de mots du poète qui sont repris par des lecteurs et qui s'expriment sur ces mots. Donc il y a une espèce d'écho des lecteurs sur chaque volume publié par le Passeur, et savoir quel écho ils ont laissé les mots du poète dans l'oreille de ses lecteurs. Voilà, c'est vraiment une démarche tout à fait originale. Je ne connais pas un autre éditeur qui fasse ça, si ce n'est le Passeur, qui est dirigé, sa collection, par Dominique Sampiero. Voilà, Jean-Michel Maulpois, Le Voyageur à son retour, dont nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je voulais le signaler d'ores et déjà en indiquant que, bien sûr, ceci sera, les coordonnées de tous ces livres seront sur notre site les-poètes.fr, hein, puisque la poésie donne le plaisir de ne pas avoir à comprendre, n'est-ce pas, Jean-Luc Doucet? Par contre, ce dont nous allons parler tout de suite avec Jean-Luc Doucet sur Ferdinand le débile, lui, demande à comprendre. Alors, une troisième biographie sur un sujet qui est là aussi un sujet particulièrement original. Hein, là, tu choisis toujours...
C'est-à-dire que c'est un personnage, encore une fois, connu de son époque et qui a été complètement oublié. Ou là encore, comme un peu les deux précédents, on a voulu oublier. Il a été empereur d'Autriche-Hongrie, mais ce n'est pas la gloire des Habsbourg, et donc est un peu passé sous silence.
Il a régné quand même quelques années.
Il a régné de 1835 à 1848.
13 ans donc.
13 ans. 13 ans, et il est né donc le 19 avril 1793 à Vienne, de François Ier, empereur d'Autriche, enfin François II, empereur du Saint-Empire romain germanique à l'époque, avant de devenir François Ier, empereur d'Autriche, et de Marie-Thérèse de Bourbon-Naples, qui est la seconde épouse de celui-ci. François était déjà veuf d'Élisabeth de Württemberg, qui était morte en couche 3 ans auparavant, et c'est cette Marie-Thérèse de Bourbon-Naples qui va lui donner toute sa descendance. Une descendance parfois marquée un peu par les problèmes de consanguinité, comme par exemple Ferdinand. Ferdinand qui va souffrir toute sa vie. Dès sa naissance, on commence à s'interroger même sur sa survie éventuelle. Il est rachitique. Il a des membres trop courts par rapport à son corps. Il est de constitution plus que faible. Il est hydrocéphale. Plus couramment, on dira qu'il a qu'il a de l'eau dans la tête. Et de surcroît, il a hérité des lèvres épaisses et tombantes des Habsbourg.
Oui, il ne manquait rien, quoi.
Il ne manquait rien, et c'était peut-être pas un très bon départ pour devenir empereur d'Autriche.
Alors, tous ces traits de physique et de caractère sont dus, tu l'as dit, à une consanguinité. Donc, qui s'est ensuite perpétué, je crois, non, dans les
C'est-à-dire que et déjà son père, l'empereur François, et sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, sont donc cousins, cousins très proches, puisque Marie-Thérèse est sa double cousine. C'est-à-dire qu'ils ont deux grands-pères communs, enfin deux grands-parents communs plutôt. Donc, le 19 avril, naît Ferdinand. On précipite un peu les choses et le baptême a lieu rapidement, puisque c'est le lendemain même. Oui. Il a lieu à la cathédrale de Vienne. Il est célébré par le cardinal archevêque. Et c'est son grand-père maternel, Ferdinand IV, le roi de Naples, qui est désigné comme son parrain. Donc, le nouveau-né porte désormais le nom de Ferdinand, Charles, Léopold, Joseph, François, Marcelin. Mais on peut dire que l'enthousiasme autour de Ferdinand est relativement mince. Et ce qu'il y a un peu de surprenant, c'est que François, lui, n'hésite pas à donner une vision plus heureuse, on dira, de la naissance de son premier fils, puisque c'est son premier fils, c'est l'héritier, en écrivant à tous les membres de la dynastie des Habsbourg qui n'ont pas pu faire le déplacement à cause de leur éloignement. Ils sont prêts à donner une vision idéale de la chose. Alors, il écrit que l'accouchement s'est déroulé de façon heureuse et que de cette libération est né un enfant en bonne santé. Donc, oui. Je ne sais pas si c'est pour ne pas s'attarder trop sur l'état, par fierté, par douleur.
Alors, j'imagine quand même le désarroi que ça a pu entraîner, cette naissance, d'autant plus que à la même époque, il y avait l'Aiglon, qui, lui...
L'Aiglon, ce n'était... Enfin, le problème, qu'est-ce qu'il va y avoir, c'est que Marie-Louise a été la première enfant de François et de Marie-Thérèse, qui oui. s'est mariée donc avec Napoléon Ier, et donc ils ont eu un fils, le duc de Reichstadt, l'Aiglon. Et lorsque Napoléon a été vaincu par les alliés, enfin la coalition autrichienne, prussienne et anglaise, bien évidemment, Marie-Louise est venue se réfugier avec l'Aiglon à Vienne, à la Hofburg, le palais de Vienne. Et là, Ferdinand a été obligé de côtoyer pendant des années, je dirais, cette incarnation de la beauté, lui qui était si peu gâté par la nature. D'autant plus que toute la famille Habsbourg était prise d'affection, c'était prise d'affection pour l'Aiglon.
Qui a eu un destin, lui aussi.
Et qui est mort, lui, en 1832, de tuberculose.
Alors donc... tu dis que le prince de Metternich veut sa marionnette.
Oui, c'est-à-dire que déjà le prince Metternich était l'homme de l'ombre de l'empereur François, et il a vu en Ferdinand le successeur, j'allais dire presque idéal, pour pouvoir diriger tranquillement l'empire à sa façon. Vu le caractère un peu audacieux et peu vif, on dira des fois de Ferdinand.
Qui était maladroit, même dans les gestes les plus...
C'est-à-dire que ça, hein. Oui, son éducation était relativement difficile, sur tous les points. Ouais. Il a mis presque un an à apprendre à se servir d'une carafe sans tout verser par terre ou sans casser le verre et les couverts qui vont avec. Il a presque mis un an à apprendre à monter et à descendre un escalier de façon à peu près correcte. Donc, des gestes de la vie quotidienne qui étaient très difficiles pour lui, déjà.
On imagine ce décalage extraordinaire, quand même, hein, entre Metternich et Ferdinand.
Oui, c'est-à-dire que l'empereur François a décidé que... ce n'est pas le terme de confier, de laisser l'empire à Ferdinand, mais... en le confiant aux mains de Metternich. Surtout, l'empereur François est mort, lui, en 1835, après avoir bien spécifié à Ferdinand, par son testament politique, on dira, surtout de ne rien changer, de faire confiance à Metternich. Donc, pour revenir à l'éducation de Ferdinand, celle-ci a été difficile. Et par rapport aux autres enfants de la famille impériale, il a été sous l'autorité de femmes jusqu'à l'âge de 9 ans. Bien plus tard que les autres princes et archiducs. Donc, en 1808, l'empereur François épouse Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, qui est sa cousine encore.
Oui. Il avait quel âge alors? Il est né déjà en 1793. Donc,
non, là c'est non, non. Ouais. Là c'est le père de Ferdinand qui épouse Marie-Louise et qui constate qu'il est mal entouré. Elle fait démettre par l'empereur Stefaneo von Carnea, son premier précepteur homme, et le remplace par le baron Joseph de Herberg en 1809. Celui-ci devient gouverneur du prince héritier, tandis que sa femme et la nourrice les archiduchesses. Mais le baron de Herberg poursuit son enseignement pendant 6 ans. Donc, si on fait les calculs, il arrive quand même à des âges auxquels, en principe, il devrait avoir une certaine éducation. Mais tout cela traîne. Et le peuple, d'ailleurs, s'en inquiète. Pas directement, parce qu'on lui cache Ferdinand, qui sort que très peu de Hofburg. Mais les rumeurs se propagent vite en dehors. La tâche est épuisante pour le baron de Herberg. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui est responsable ou pas de ce qui se passe tout d'un coup. Donc, qui va d'ailleurs amener à la destitution, si on peut dire, du baron de Herberg. Puisque, soudain, c'est un peu, en 1815, l'impensable.
Alors, on va voir ceci dans un extrait de ce livre. Hein. À que l'incident qui va se dérouler tombe au mauvais moment. Ayant lieu en plein congrès de Vienne, il est loin de passer inaperçu. Un point de convergence entre la grande et la petite histoire. Mais peut-on parler de petite histoire, puisque concernant le prince héritier, il s'agit de l'histoire. À que pourtant, à la Hofburg, on eût préféré passer cet épisode sous silence. Mais voilà, le congrès de Vienne a commencé. Tandis que se déroulent dans la capitale autrichienne les négociations pour l'élaboration d'un traité devant dessiner une nouvelle carte de l'Europe, le palais est en proie à une scène terrible. Le baron Joseph de Herberg est apparemment devenu fou. Fou, vous dis-je. Fou. Oh, quel moment funeste où le précepteur, la nuit, inonde le palais de la Hofburg. L'archiduc est seul dans la chambre qu'il occupe dans la partie réservée aux appartements de la famille impériale, seul dans ce lit immense où ses jambes et ses bras prennent toute leur petitesse. Le prince repose. Les gardes dans le couloir ont la veille difficile, celle dont la vigilance s'atténue, s'aménuise. Il se redresse, se rajuste. Au passage du baron Joseph de Herberg, il n'ose l'arrêter. Lui semble parfaitement éveillé, malgré l'heure tardive, plutôt matinale. Il a l'air agité. Ses pas rapides saisissent au regard de la torpeur qui règne dans le palais. Il ouvre les battants de la porte du prince, s'engouffre vivement dans la chambre et, pris d'une violence jusque-là contenue à grand-peine, défouraille son épée, se précipite sur Ferdinand. La coiffe déboîtée de son crâne, le voilà vociférant que l'on attente à la vie du jeune prince. Il en assure la défense, repousse des ennemis que lui seul aperçoit. L'héritier plie sous le poids de son précepteur. Il se débat de toutes ses maigres forces. Sa vitalité est bien faible. Il suffoque. Avec peine, il s'agrippe au cordon de la sonnette qui le relie au domestique. Alerté par le tintement, ceux-ci se précipitent sans hâte, sans prêter plus d'importance que de coutume à cette cloche qui s'agite de plus en plus. Ils ont l'habitude des caprices princiers. Dans le couloir, les soldats de la garde et des arciers s'extirpent de leur demi-sommeil. Les cris de Ferdinand leur parviennent désormais clairs. Ils hurlent, en n'en point douter, des gueulements de détresse. « À moi ! À moi ! À moi !» Par moments, la voix semble s'étouffer. Les deux gardes pénètrent dans la chambre, défonçant la porte que Joseph de Herberg s'est employé à bien refermer derrière lui. Rapidement, il s'empare de cet aliéné qui éructe contre les comploteurs à demi nu, qui se débat comme un imaginaire que son esprit rend si réel. L'impératrice Marie-Louise arrive sur ses faits. Sa seule vue suffit à ramener le forcené à une raison apparente. Un peu plus calme, il est prestement emmené loin du prince Ferdinand, recroquevillé dans son lit, apeuré comme un animal traqué. Il a le regard de ces bêtes, de celui qu'elle voit lors des chasses organisées par l'empereur François.
Oui, il faut dire que cet incident se déroule dans des conditions assez particulières, puisque a lieu à ce moment-là, enfin, qui dure d'ailleurs pendant plusieurs mois, de longs mois, le fameux congrès de Vienne, qui regroupe quasiment tous les chefs d'État, les diplomates, les cours, les familles impériales. Et donc Vienne est devenue la capitale du monde, le centre de toutes les rumeurs. Et cette mésaventure survenue au prince n'est pas sans ternir un peu son avenir d'empereur. Surtout que il est assez amusant de constater que durant ce congrès, c'est un véritable bal des espions qui se déroule.
Oui.
Tout le monde s'espionne, on en arrive à fouiller dans les cheminées, récupérer les cendres pour en passer d'autres. Pour chercher éventuellement toute trace.
Est-ce qu'on s'interrogeait sur l'avenir de Ferdinand fortement à ce moment-là, oui.
François s'est interrogé beaucoup sur l'avenir de son fils pour sa succession. Et sa préférence est allée un moment vers le fils cadet, François Charles, qui est né en 1803, lui. Qui a donc 10 ans de moins que Ferdinand, et qui apparaît un peu moins accablé par la consanguinité, bien que.
Et les autres cours européennes, est-ce qu'il y avait là aussi une inquiétude, ou est-ce que c'était vraiment bien caché, est-ce que...
Il y avait une inquiétude, mais... qui n'a pas eu de répercussions immédiates, je dirais. C'est à la mort de l'empereur François en 1835 que, par exemple, par contre, les bourses autrichiennes se sont effondrées complètement, craignant l'arrivée donc de Ferdinand à la tête de l'empire austro-hongrois, ne sachant exactement ce qui allait se passer. Parce qu'il faut dire que Ferdinand s'est fait remarquer par quelques anecdotes assez particulière. Par exemple, un jour, il participe à une chasse pour parfaire son éducation princière. Un coup de feu est tiré, un rapace tombe, on lui ramène le trophée, on lui dit « c'est un aigle ». Il se met à hurler toutes ses forces « non, ce n'est pas un aigle, ce n'est pas un aigle ». Il répète ça plusieurs fois de suite, on a voulu essayer de le convaincre « mais si, c'est bien un aigle ». Non, pour lui, l'aigle a deux têtes, comme sur son blason, comme le blason de l'Empire austro-hongrois.
Oui. Les Saint-Empire romains germaniques.
Voilà.
Oui. Oui, qui regardent vers l'Orient et vers l'Occident. Donc oui, c'était quand même à ce point-là, oui.
Oui, il avait parfois des réactions assez surprenantes. Et une autre fois, mais à ce moment-là, il était déjà empereur, lors d'un dîner tout à fait officiel. Le plat servi par son cuisinier ne lui convient pas. Il veut des marillons knödels. Mais ce n'est pas la saison de ce plat. Pourtant, ce sont des abricots enrobés dans de la pâte, des sortes de beignets, qui sont très aimés des Autrichiens et de Ferdinand. Mais pour lui, ça tourne pratiquement à l'obsession.
Alors on va écouter ce passage, ici. Seigneur, que cette digression gustative me fait ressurgir une anecdote savoureuse, mais que je trouve aigre et acide au sujet de notre monarque. Elle a été source de tant de railleries. Si fumeuse et tellement fameuse histoire qu'elle fait passer depuis l'empereur pour un sot, aux yeux de tous. Que n'a-t-il pu garder son calme lors de cette divergence avec son cuisinier? que n'a-t-il su rester détaché de cette si légère contrariété lors d'un dîner officiel ? Que le menu proposé n'aiguise point son appétit. Une seule chose peut le satisfaire. Ferdinand, comme tout Viennois, comme tout Autrichien, voue une passion sans limite aux abricots, cette manne céleste venue de la vallée de la Wachau. Dieu, que Ferdinand, comme tout Viennois, comme tout Autrichien, a comme grand plaisir culinaire de déguster des marilènes Knödel, ces abricots enrobés d'une pâte, puis roulés dans la chapelure avant leur cuisson. Pour autant, faut-il encore que nous fûmes dans les mois où le fruit peut être consommé. Tel n'est en ce jour-là pas le cas. Sire, la saison des abricots n'est point. Que votre majesté fasse preuve de bienveillance. J'eus tout fait pour la satisfaire. Pour Ferdinand, la réponse est inacceptable. Sans doute, ce soir-là, l'empereur est-il fatigué de tous les travaux d'aménagement, de toutes les réalisations techniques qu'il multiplie dans l'Empire. Peut-être encore son corps le fait-il souffrir. Parfois, en ces cas, son caractère devient irascible. L'empereur Ferdinand est labile, incapable de parvenir à contrôler son humeur changeante. Lui entendre se faire répondre non lui provoque un accès de colère qu'il ne peut réprimer. Le sort de la maison des Habsbourg en aurait-il dépendu que sa réaction ne fût pas plus violente? Ah, que cela m'a peiné de voir ceci se dérouler devant ses hôtes autour de la table impériale. Le visage crispé, les yeux exorbités plus que de coutume, il se met à parler sur un ton semblable à celui qu'il prendrait sur un champ de bataille. Il faut lui obéir. Il faut exécuter sa volonté. Non, non. Entendre ce mot lui est chose insupportable. Qu'à ce nom, réagit-il à la manière d'un enfant, de celui qu'il a été? Et peut-être encore un peu, en ses jeunes années, il était pris d'accès de rage, si un refus lui était opposé. Ce soir, sa réaction est telle, disproportionnée, il crie pour se faire obéir, « Je suis l'empereur, je veux des boulettes !» Les valets, infirmiers, sont près de lui. Ferdinand se débat, veut les écarter, et répète, « Je suis l'empereur, je veux des boulettes !» Donc on voit à quel point il ne résiste pas à ses frustrations.
Il ne résiste pas à ses frustrations.
Comme un enfant, vraiment.
C'est un enfant, j'ai l'impression, qui est resté relativement longtemps.
Oui.
Pour ne pas dire, peut-être, oui, toute sa vie. Ses passions sont le jardinage, la botanique et les sciences. Mais son principal handicap aussi de santé, dont on n'a pas encore parlé, c'est l'épilepsie. Il souffre de crises d'épilepsie jusqu'à 5-6 fois par jour, ce qui le laisse dans des états d'épuisement total et lui empêche de vivre tout à fait normalement. Il est suivi ainsi en permanence par des valets infirmiers. Il y a 3 médecins et des chirurgiens qui lui sont attachés en permanence. Et c'est dans ce contexte que Metternich envisage de marier Ferdinand pour pouvoir lui permettre d'accéder à la couronne. C'est quand même une condition, j'allais dire sine qua non, pour devenir empereur. Donc le choix de Metternich et de son père, l'empereur François, se porte sur la princesse Marianne de Sardaigne, qui est encore célibataire alors qu'elle a passé l'âge des 20 ans, ce qui est un âge où, en principe, elle aurait dû être mariée. Et le mariage est vite arrangé. Donc, à la cour, comme d'habitude, on se met à a ironisé sur le physique de la future impératrice. Le soir de la Saint-Sylvestre, sa miniature circule de convive en convive. Les frères du futur empereur, plutôt, se rient de bon cœur, eux, et rivalisent de grossièreté sur Marianne de Sardaigne.
Elle était...
Et en fait,
physiquement, elle était comment ?
Elle était plutôt belle, en fait. Elle a charmé toute l'assistance lors du mariage qui s'est déroulé à Vienne le 27 février 1831. Donc, est venue la nuit de noces après les banquets, une nuit de noces pour laquelle l'empereur François a prié de tout son être, je dirais, pour éviter que de cette union ne naisse quelque enfant. Par crainte peut-être de voir un peu plus encore des difficultés physiques et morales. Et la nuit de noces va se dérouler de façon assez étrange, je dirais, puisque Marianne de Sardaigne est vierge. Elle a eu une éducation très pieuse par sa mère, puisqu'elle était orpheline de père. Et donc elle découvre l'amour, on dira, avec Ferdinand. Ferdinand et toutes ses tares.
Qui lui connaissait l'amour, déjà ou...
Vous l'allez voir.
Alors, voici le récit donc de cette nuit. Le physique de la princesse Marianne séduit tous les invités. Elle insuffle par sa présence une note de fraîcheur dans la Hofburg poussiéreuse. L'héritière de Savoie apparaît consommable, selon les dires de plusieurs goujats de la cour, et plusieurs sots orgueilleux trouvent qu'elle mérite un homme qui soit réellement un homme, plus que ne l'est Ferdinand. Eux, par exemple. Un teint pâle, une silhouette fine, un visage régulier, font d'elle une femme sujette à convoitise. Mais les idées de plaisir ne sont pas à l'esprit de Marianne. La jeune fille a été élevée, après la mort de son père, par sa mère, l'impératrice, dans le respect de la foi. Elle est profondément pieuse, dévouée aux idées catholiques. Oh, certes, elle ne parle pas l'allemand, elle ne le parlera jamais, mais ceci importe peu. Ce n'est pas la préoccupation de Metternich, ni celle de l'empereur François Ier, et Ferdinand a, lui, peu à dire sur celle qui va être son épouse. La princesse Marianne de Sardaigne est fiancée à Turin à l'archiduc Ferdinand par procuration le 12 février, tandis que le mariage est célébré le 27 du même mois de cette année 1831 à Vienne. La cérémonie nuptiale est funèbre. Observant son fils, l'archiduc Ferdinand se débattre, s'empêtrer, se démener dans le protocole, François Ier prie. Il me semble que ses prières au Très-Haut n'ont jamais eu tant de dévotion que durant cet office. « Dieu ait pitié de nous », prononce-t-il avec une résignation qui l'accable. Tandis que se déroulent les rites de ce mariage, il est en proie à l'inquiétude. Dans la soirée, où les festivités vont s'achever, ses craintes deviennent peur. Le Seigneur entendra-t-il mes prières ? Que ce mariage reste stérile ? François Ier prie avec ferveur pour cela à l'heure où les époux se retirent dans la chambre nuptiale. Aidé de ses domestiques qui lui ont été assignés, qui le servent parfois comme s'il était un infirme incapable de tout, le prince se hisse avec difficulté sur sa couche nuptiale. « Ne me bousculez pas !» prononce Ferdinand en se retournant vers ses valets, en essayant de prendre un ton autoritaire dont il n'a pas souvent l'habitude, hormis dans ses crises de colère. Un peu déconcerté, il se regarde, Ils font un pas en arrière, observant le prince ramper vers son épouse, celle qu'on lui a donnée, déjà allongée, le corps entièrement recouvert par un drap de lin blanc, vierge. Elle a les traits d'un cadavre, d'une gisante sur son lit mortuaire. Elle attend, sans impatience. L'archiduc Ferdinand n'en manifeste pas non plus aucun empressement à satisfaire sa jeune épouse. Voilà, donc ça, au bureau, vraiment.
Donc, le mariage restera non consommé, malgré plusieurs tentatives de Ferdinand, qui sera victime de 5 ou 6 crises d'épilepsie durant la nuit. Il restera non consommé, d'ailleurs, jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort.
Oui. Elle savait qu'il était épileptique, etc., dont elle pouvait s'attendre.
Elle pouvait s'attendre, mais là, je pense tout a dépensé. On ne peut pas dire ses espérances, mais enfin, ses craintes.
Oui, elle s'est évanouie, je pense, pendant l'acte qui n'a pas été un acte.
Oui, je pense qu'elle a été plutôt effrayée par le spectacle. Oui. Mais ce qu'il y a eu de remarquable, c'est que ce mariage entre Marianne et Ferdinand est duré jusqu'à leur mort. Elle l'a suivi, accompagné jour après jour, de 1831, le jour de leur mariage, jusqu'à la mort de Ferdinand en 1875. Sans relâche, elle a veillé sur lui, elle l'a soigné, elle s'en est occupée.
Oui. Il y avait donc une relation de tendresse, d'affection.
Oui.
Oui.
Oui, tout à fait. Et Ferdinand donne le nom d'une île d'un des étangs de Laxenbourg, un des palais d'été à côté de Vienne, donne le nom de Marianne à l'une des îles. Ils ont des relations très tendres, mais le mariage reste blanc, on dira.
Il est toujours resté blanc.
Oui.
D'accord. Donc le vœu de l'empereur que ce mariage reste stérile a été exaucé,
il a été exaucé. Donc en fait, Ferdinand devient réellement empereur à la mort de son père François en 1835, qui part d'une fièvre ardente après une agonie de 5-6 jours. C'était relativement rapide. Et Ferdinand est incapable, bien évidemment, de gouverner seul. Metternich, lui, ne peut pas prendre le pouvoir, ça ne peut pas se faire. Donc il est décidé d'établir un conseil de régence. L'idée viendrait de l'empereur François, mais peut-être qu'elle est née aussi dans le cerveau de Metternich, je ne sais pas. C'est le conseil de régence qui comprend le comte de Kolovrat, le prince de Metternich, bien évidemment, l'archiduc Ferdinand et l'archiduc. Alors on cherche dans la famille des Habsbourg quelqu'un qui pourrait convenir, et le choix se porte sur l'archiduc Louis. Donc, une blague d'ailleurs court à l'époque dans les rues de Vienne, surtout à la cour plutôt que dans la population, que l'Autriche et l'Empire austro-hongrois est dirigé par 30 hommes, 3 personnes et un grand zéro. Parce que la popularité de Ferdinand, en fait, est manifeste tant en Hongrie qu'en Autriche. Il est appelé Ferdinand le Bon ou le débonnaire, selon, parce qu'il fait preuve quand même de mansuétude, il essaye, le peuple espère en lui des libertés, retrouver des libertés jusqu'alors un peu perdues, par Metternich, qui lui a instauré un régime policier, parce que sa crainte, j'allais dire, c'est une crainte viscérale, ce n'est maladif, il craint la révolution.
Et Ferdinand, lui, est arrivé à imposer certaines mesures
devant Metternich. Quelques-unes. Il a bien profité de ses sacres pour faire quelques amnisties, et encore a-t-il été freiné pour cela. Et Mais là, ce n'est pas de sa propre volonté, c'est lors des événements de 1848. Il est parvenu, enfin, c'est le peuple qui est parvenu, mais lui a abondé dans ce sens, à lever la censure sur la presse, qui se manifestait de façon très prégnante.
Et ça, c'était une idée de lui.
Non, c'est le peuple qui réclamait ça durant les émeutes de 1848, mais il s'y ralliait de façon, j'allais dire, relativement naturelle.
Ce qui veut dire que il était quand même doté d'un certain sens critique et d'une sensibilité particulière.
Oui, une sensibilité particulière. En 1832, par exemple, il est victime d'un attentat, enfin, on lui tire dessus, un coup de feu tout d'un coup à la sortie de l'office à Baden, près de Vienne. Il s'écroule, on craint un attentat lié justement aux révoltes qui commencent à poindre. Il s'avère que c'est un acte d'un désespéré, un ancien capitaine, Riddle, qui avait demandé une aide de 500 florins, ça n'était vu octroyé que 100. Il a insisté auprès de son père pour que la peine de mort soit commuée en prison, en peine de prison. Et à la mort de celui qui lui avait tiré dessus, il est venu en aide financièrement à sa femme et à ses enfants.
Ça, c'est ça de sa propre volonté.
De sa propre volonté, là.
Oui. Donc il a vraiment une bonté d'âme.
Oui, il voudrait faire le bien, mais il est empêché par
Metternich.
Metternich et puis l'autorité qu'il doit.
Oui. Alors, des extraits que l'on a écoutés, là, on voit que cette biographie est écrite comme les autres, avec un ton qui est un ton particulièrement agréable, alerte et facile à lire. C'est-à-dire que Ferdinand le débile de Jean-Luc Doucet, c'est un livre de plaisir. Certes, c'est un livre, on pourrait penser que c'est un livre d'érudition, etc. Cette biographie sur cet empereur qui a régné 13 ans sur quand même un empire prestigieux, mais ce livre est un livre que l'on, d'après ce qu'on a écouté, la façon dont il est écrit, il y a un travail d'écriture qui fait que il y a un ton qui est un ton très agréable et très vivant.
J'ai tenté de le rendre assez vivant, justement, en employant une formule, on pourrait dire, ce sont les mémoires d'un homme de l'ombre de la cour, qui a suivi Ferdinand jour après jour pendant tout son règne, pendant toute son existence même, dans l'ombre, sans jamais lui parler, qui a observé ce qui se passait, qui l'a suivi dans ses bonheurs qui ont été relativement rares, dans ses malheurs qui ont été plus fréquents, dans sa retraite, puisqu'il est parti en 1848, après les événements de mars 1848, les révolutions. Il est parti vivre au château de Prague avec l'impératrice Marie-Anne, et il y est resté jusqu'à sa mort en 1875, lui, et elle en 1884, avec une vie tout à fait simple. Il se promenait dans les parcs et jardins si nombreux à Prague, il allait une fois par an à l'opéra, écoutait toujours la même pièce, Martha. Il se promenait en tenue civile, avec certains disent des habits même un peu surannés. Il avait bien encore quelques manies, il a toujours eu quelques manies. Tous les matins, il se mettait au balcon de l'un des balcons du château de Prague. Ses gardes qui lui étaient attachés venaient se mettre au garde à vous en dessous et jouaient les airs préférés de l'empereur. Et il se mettait en uniforme de général une fois par an également, le 19 avril, le jour de son anniversaire, où il faisait défiler la garde sous son balcon.
Alors la façon dont dont le récit est mené, moi, me fait penser un petit peu à la narration d'un roman picaresque. Hein. C'est-à-dire, c'est un témoin qui va raconter l'histoire de...
Oui.
Voilà. Donc, ça permet effectivement d'avoir un angle de vue un petit peu détaché.
Oui, parce que c'est réellement un témoin. Il n'intervient à aucun moment dans l'histoire.
Oui. Et ce qui rend, bien sûr, le récit, on l'a vu en écoutant ces extraits, le récit donc extrêmement agréable.
Merci.
Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand même pendant ces 13 années de règne? Qu'est-ce qu'il fait?
Eh bien, il se penche sur son domaine, un de ses domaines favoris, les sciences, puisque à peine est-il monté sur le trône, qu'il multiplie les initiatives à consonance scientifique pour toujours venir en aide à la population, en fait. Peu de temps après qu'il soit devenu empereur, donc, il se lance dans une réalisation d'importance. Il est constaté que plus on s'éloigne du Danube et du canal de Vienne, d'autant la configuration de la capitale autrichienne change et la ville se construit en hauteur. Donc les faubourgs qui sont bâtis sur des points élevés souffrent cruellement d'eau au moment des grandes sécheresses. Donc il fait réaliser le projet d'un aqueduc qui est vraiment quelque chose de très technique. Je vous passerai les détails puisque autrement on peut les lire, mais et qui doit permettre donc d'alimenter toutes les maisons et tous les quartiers.
Donc une conception quand même altruiste, dévouée à son peuple.
Oui, hein? Puis il aime les sciences, les techniques donc modernes. Par exemple, il se penche, c'est le cas de dire, sur la rénovation de la tour de la cathédrale qui menace de s'effondrer depuis un tremblement de terre de 1580. Et des morceaux se détachent régulièrement, pouvant tomber sur les têtes des passants. Et de nouvelles techniques sont utilisées d'ailleurs, puisque pour soulager la structure, on réalise une armature métallique pour poser les pierres dessus. Et il se tient réellement au courant de l'avancée des travaux et s'y intéresse fortement.
Il avait une formation technique qui lui permettait de pouvoir... s'intéresser dans le détail?
Non, il n'a pas eu de formation technique particulière.
C'était le goût.
C'était le goût. Et puis, il a vite compris également dans le domaine des sciences et des techniques, on dira, l'importance de la route en fer.
D'accord.
Les chemins de fer qu'il a développés. Oui. Alors que son père était très timide sur ce sujet, lui s'est lancé vraiment là-dedans. Et il avait
une vision de l'avenir, donc.
Oui, et il a surtout vu dans le développement des chemins de fer l'aspect commercial, le développement des échanges.
Oui.
D'ailleurs, lui que l'on croyait un peu débile, à sa retraite, s'est vu confier l'administration des biens du duc de Rastatt. Et il en a fait une fortune considérable.
Oui.
De 250 millions de florins qu'il a légué à son neveu François-Joseph, ce qui en a fait l'empereur le plus fortuné d'Europe. En fait, on peut dire presque que François-Joseph a été le fils qu'il n'a pas eu, puisqu'il a abdiqué en sa faveur le 2 décembre 1848
à Olmutz. C'est le mari de
Sissi, hein? Comment? Le mari de Sissi, oui.
Voilà,
c'est lui. Et il lui a légué sa fortune.
Ça, c'est quelque chose que l'on ignore, hein, vraiment, comment que François-Joseph...
C'est un peu ce qui m'a intéressé, parce qu'on parle beaucoup de François-Joseph, on parle beaucoup de son épouse Sissi, peut-être plus de Sissi même que de François-Joseph.
Ouais.
Et j'avais vu il y a quelques mois que l'on célébrait le centenaire de la disparition de François-Joseph en 2016. Et je me suis posé la question de savoir, mais qui y avait-il avant?
Oui.
Et avant, il y avait Ferdinand, son oncle. Qui lui n'avait peut-être pas la même prestance, mais que j'ai trouvé tout à fait intéressant.
Oui, tout à fait. Alors là, il y a un contraste absolument manifeste, hein, entre les deux, c'est-à-dire l'empereur qui lui succède et opère un peu dans la magnificence, hein, avec Sissi, etc. Et lui, au contraire, reste.
Lui, c'est la simplicité, avant tout. Il a horreur des manifestations officielles, oui. les sacres auxquels il doit se soumettre, puisqu'il devient empereur. En fait, il est sacré 4 fois. Empereur d'Autriche, roi de Bohême, roi de Hongrie, à Milan également. Donc 4 fois, c'est un chemin de croix pour lui, autant. Oui. De peur toujours d'être victime de ces fameuses crises d'épilepsie qui l'empêchent d'avoir une vie publique, je ne parle pas de mondaine, mais du moins une vie publique. Et paradoxalement, il adore se promener tout seul. Au Prater, c'est l'endroit de promenade par prédilection des Viennois, vaste parc qui est devenu aujourd'hui un parc d'attraction, mais qui ne l'était pas avant. Enfin, qui croit qu'il l'était déjà, il y avait des feux d'artifice et tout. Mais donc il partait en cachette, en civil, se promener au Prater. Il passait la journée voir les animations, les différents jeux. Il pensait être seul, bien évidemment, mais il était suivi par les valets infirmiers que Marianne s'empressait de lui mettre derrière lui. Oui.
Quelles étaient les relations de François-Joseph ensuite, quand il a été empereur avec Ferdinand? Ils avaient des relations ou...
Ferdinand n'est jamais retourné à Vienne. Oui. Parce que Vienne, en fait, il n'était plus du tout appelé Ferdinand le Bon à la fin des émeutes de 1848, c'était plutôt Ferdinand le Fini ou Ferdinand le Bénin. Et Ferdinand le Bon était un peu loin. Et il a mal supporté cet état de fait, donc il s'est installé à Prague, il est resté à Prague. Et il n'est jamais retourné à Vienne. Mais François-Joseph est venu le voir en... Après son mariage en 1854, son mariage avec Sissi, Élisabeth d'Autriche, et ils sont venus le voir et d'après ce que j'ai pu apprendre, Sissi a été touchée par cet homme qui se battait contre ses crises. Elle l'a vu dans un état assez difficile et... elle le voyait jouer au domino, et puis soudain, près d'une crise, elle était assez touchée, assez émue par l'oncle de François-Joseph.
Donc, Ferdinand le Débile, une biographie qui est une biographie abondante, hein, puisque donc c'est un livre quand même où il y a près de 300 pages. Qui a dû demander quand même un travail de recherche assez important. Est-ce qu'il a été facile, ce travail de recherche?
Beaucoup de bribes, par-ci, par-là.
Il faut rassembler tout ça.
Pour rassembler, parce que je n'ai pas trouvé de biographie le concernant, oui. En français. En allemand, apparemment pas. Quoique j'aurais eu quelques difficultés, je dois dire, à le traduire. Mais je n'en ai pas vu non plus. Et on en parle un peu, mais ce ne sont chaque fois que quelques anecdotes, quelques détails. Mais je n'ai pas vu d'ouvrage qui lui était consacré spécifiquement. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et j'ai trouvé, comme les deux autres, Philibert et Campana, un personnage très attachant.
Oui, oui, effectivement. D'après ce qu'on a pu écouter là et ce que tu nous en dis... C'est un personnage...
Et qui a toujours été conscient de ses faiblesses. Hein,
oui. Alors c'est ça, oui, qui est important aussi. Oui. C'est une lucidité.
Oui.
Hein, ce qui ressort de ce que tu as bien expliqué. Là,
mis à part ces crises, des fois on pourrait dire de démence, enfin de colère qui ne sont pas injustifiées, mais autrement lucide sur son état et ne cherchant pas à paraître. Oui.
Mais lucidité, peut-être aussi, d'après ce que tu as l'air de dire, aussi lucidité vis-à-vis de la société, de son époque.
Lucidité aussi vis-à-vis de son époque, vis-à-vis des problèmes rencontrés par la population à cause de la politique de Metternich. Et j'allais dire lucidité vis-à-vis de Metternich lui-même. Puisque bien avant même, enfin, ou au moment où il a été sacré empereur, je ne sais plus quel journal, le Propagateur en France, parlait déjà de l'animosité que Ferdinand manifestait contre Metternich. Oui. Il a obéi son père en se plaçant sous sa coupe, mais il n'aimait pas Metternich. Et Metternich le considérait, lui, comme un débile.
Oui, une marionnette, quoi.
Voilà.
Dont il pouvait se servir à sa guise.
Ce qu'il a fait quand même en grande partie.
Oui. Alors, il nous reste deux minutes. Est-ce qu'on peut lire un petit extrait? Peut-être...
Si vous voulez peut-être lire juste le début, alors, puisqu'on parlait de la façon dont c'était raconté. Donc, voici les deux premières pages, ou trois premières.
Voilà. De l'eau dans la tête. Je vais mourir ce soir. Ils ne me l'ont pas dit. Ils me l'ont fait sentir. Aujourd'hui, lui vit en paix. Lui, j'ai veillé dessus. Comme un second père, comme une autre mère, comme un frère aîné qui n'a jamais eu, comme une sœur. Plus que tout autre. Moins que Dieu qui l'a épargné jusqu'à ce jour, alors que tous croyaient en sa fin prochaine, dès sa naissance, dans le silence et dans l'ombre, je me suis préoccupé pour sa majesté. Lui, je l'ai assisté au jour sombre où le mal s'en emparait, le laissant flotter entre vie et mort, sans savoir vers où le destin l'entraînerait. Il était le premier des faibles. Il a été puissant, déjà oublié, avant sa mort. J'ai veillé sur l'héritier malade des Habsbourg. J'ai assisté l'empereur d'Autriche, le monarque de Hongrie en tous instants. Lui, Ferdinand Ier, lui, accablé de tant de tares. Moi, vous ne me connaissez sans doute pas. Mon nom vous est inconnu. Je m'appelle Ambrosius Nesewer. Mon père s'appelait aussi Ambrosius Nesewer. Durant des dizaines d'années, il a été au service de la famille impériale d'Autriche-Hongrie. Durant des décades, j'ai été, moi également, au service de la maison des Habsbourg-Lorraine. Voilà, le ton est donné. Donc c'est tout à fait ce que j'avais
correspond à ce
c'est-à-dire
que vous avez
vraiment
raconté tout à l'heure.
Le roman picaresque donc, du témoin qui explique qui il est, mais qui va dire, voilà, moi j'ai fait ça, je vais vous dire exactement ce qu'il a dit dans la pure vérité.
Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je pense qui est ma vérité, en fait.
Oui, qui est ma vérité.
Mais il ne s'agit pas d'un roman tout à fait, c'est surtout une biographie.
Oui, voilà, c'est
les
ça.
Éléments
c'est
qui sont racontés
sous cette forme-là, mais ce n'est pas une fiction.
Non.
Donc c'est une biographie sur un ton très alerte, très agréable, et en définitive une biographie, si j'ai bien compris, qui est quand même exceptionnelle dans la mesure où il n'y en a pas encore de disponible.
Je n'en ai pas trouvé. Si quelqu'un en trouve une, il me le dise.
Voilà. Alors, donc, c'est passionnant. Ferdinand le débile, de Jean-Luc Doucet, aux éditions Jeanne d'Arc. Ça vous coûtera 17 €. Voilà. Toutes ces références seront bien entendu sur notre site les-poètes.fr. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Jean-Luc Doucet, et bravo, donc, pour ce beau livre. Une prochaine fois, j'espère que tu as de projets pour une prochaine fois.
J'espère.
Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.